loi, puisque nous savons très bien que la loi conduit à la mort, la lettre tue. Deuxième élément, l'esprit dont il est question dans cette expression tellement connue comme un proverbe, il faut s'y arrêter. L'esprit, ça n'est pas le nôtre, c'est l'esprit avec un grand E, le seul qui soit en capacité de communiquer la vie. Quand vous utilisez cette expression comme un proverbe, vous mettez facilement un petit E à esprit. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Bon, l'important, c'est... Hein. Non, non, la loi tue, mais c'est l'esprit de Dieu qui communique la vie. C'est ça que veut dire ce verset. Et d'un côté, on a la loi qui conduit à la mort, de l'autre, la loi, l'esprit qui insuffle la vie. Et voilà ce que voulait donc dire ce fichu proverbe, la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Et on est très très loin de nos fausses pistes du début. Et Paul est amené à rappeler aux Corinthiens à cet égard tout le prix de leur propre histoire. Dans quelques versets au-dessus, voilà ce qu'il leur écrit. Il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qui nous a fait écrire non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, référence à l'histoire, mais sur des tablettes de chair, c'est-à-dire sur vos cœurs. Et donc, voyez bien qu'il ne s'agit pas de discréditer la loi ici, mais de rappeler aux chrétiens qu'ils ont changé de régime. Aujourd'hui, c'est bien l'esprit qui les fait vivre. Grâce à cela, ils sont passés du régime de la loi au régime de la foi et du régime de la crainte d'enfreindre la loi au régime de la confiance. Alors, relisons ensemble les versets, ces versets-là. Le ministère de Moïse au service de la loi, vous voyez, d'un côté, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort, mais il ne faut pas le dénigrer, il a eu vraiment son, plus que son utilité, son sens profond pour constituer un peuple. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ce fondement moral est quand même toujours un peu partagé par l'humanité, quoi qu'on en dise, ce n'est pas simplement un fondement moral pour le peuple juif, c'est un fondement moral pour le monde entier. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? Et voilà, en définitive, ce que ça veut dire tout ça. On est passé du ministère au service de la loi au ministère au service de l'Esprit. La loi était la révélation, on peut le dire, d'une attention particulière de Dieu pour son peuple, mais l'Esprit, lui, révèle la grâce de Dieu pour tous les peuples. Et c'est la promesse faite à Abraham. Les Corinthiens et nous aussi, nous avons peut-être besoin de nous rappeler que nous avons mis notre confiance en Dieu pour qu'il nous accompagne par son esprit, pour qu'il nous communique la vie jour après jour. Et imaginons, alors c'est vraiment quelque chose qui me frappe de plus en plus au fur et à mesure que je lis les textes, le chemin qu'a dû parcourir l'apôtre Paul là-dessus. Vous avez quand même quelqu'un qui est né juif, en Cilicie, formé par l'un des plus illustres enseignants du judaïsme, Gamaliel, un célèbre parmi les célèbres, qui est fidèle défenseur d'une tradition pharisienne, qui est convaincu parmi les convaincus qu'il faut absolument éradiquer cette secte de suiveurs de Jésus qui est en train de naître, quelque part. Ce Nazaréen illuminé, voilà comment Paul devait percevoir les choses au départ. Et c'est le même qui décrit dans ces textes, le passage entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous imaginez le cheminement, alors il y a le chemin de Damas entre, mais vous imaginez le cheminement que cet homme a dû faire. Il est né dans une culture avec ses certitudes, et il est capable de dire, attendez, non, ça c'est une étape provisoire, maintenant c'est la nouvelle alliance, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est toujours frappant, cette transformation de Paul. Alors, quelle piste pour nous? Parce que c'est bien ça qui est important ce matin. Paul s'est heurté à de multiples difficultés dans la diffusion de cette incroyable annonce du passage à la Nouvelle Alliance. Et en tout premier lieu, il s'est heurté au légalisme. Jésus s'est heurté au légalisme, mais Paul aussi, par la suite. Parce que c'est tellement plus rassurant d'être dans son port d'attache, ce qu'on connaît, la loi, sa culture, que partir en pleine mer à l'aventure, c'est tellement plus rassurant. Et ce légalisme-là avait une fonction de réassurance. Il y a des tentations permanentes de retour en arrière. Et Paul va dire des choses aux Galates assez fortes dans ce domaine-là. Moi, pour moi, ce passage, il ressemble ni plus ni moins qu'à une engueulade. Regardez ce que dit Paul aux Galates. « Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi ? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix était clairement dépeinte à vos yeux. » Je rajoute un point d'exclamation. « Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ? Ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue ? Manquez-vous à ce point d'intelligence ? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection ? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien ? Si encore c'était pour rien. Mais voyons, lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ? Ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue ? Moi j'entends presque Paul dire « mais vous êtes bêtes ou quoi ?» On dirait aujourd'hui « vous êtes teubés », on dirait quelque chose comme ça. C'est fort ce que leur dit Paul, vous êtes « mais ça ne va pas à la tête ». Vous êtes en train de faire un sacré retour en arrière. La loi a pour débouché logique la mort, la lettre tue, et pourtant, on voit bien qu'à travers le légalisme, nous pouvons, mais nous comme les Galates, hein, retourner facilement à une forme de légalisme, très facilement. Et ce réflexe, il peut être apprécié de plusieurs façons. Pourquoi cette tentation-là ? Parce que ça peut permettre aussi de se justifier soi-même, à ses propres yeux. Si on y regarde bien, le légalisme, il a un bénéfice réel pour moi. Parce que quand je mets mon énergie à cocher patiemment toutes les cases, mon image, à mes propres yeux, elle se renforce. Je franchis les étapes, que je me fixe, bien sûr, et c'est bien le jeu qui compte à ce moment-là. J'y arrive tout seul. Et revoilà donc l'homme avec son autonomie, son désir constant d'indépendance, sa centration sur soi, son autosuffisance. Je suis au centre. Et on entend souvent ça. Vous savez, moi je ne tue pas, je ne vole pas, je respecte mes parents, je respecte le code de la route, je respecte la politesse, je respecte la file d'attente dans les magasins, je respecte bref, tout ce qu'il y a à respecter. Je fais tout dans les règles. Et cette forme de légalisme est une forme à force d'auto-justification permanente. Elle nous guette tous parce que lorsque par nos propres efforts nous faisons apparaître en sorte de paraître juste à nos propres yeux, nous nourrissons ce légalisme nous-mêmes. Sauf que, on l'a vu, on ne peut pas se déclarer juste soi-même. C'est impossible. Et Galates se voient rappeler ce que leur dit Paul, la loi était comme un gardien chargé de nous conduire à Christ. Bonne étape et première étape. Mais pour que nous soyons déclarés par la foi, justes devant Dieu. Et notre justice ne provient pas du fait que nous faisons des choses bien, mais que nous avons reconnu à travers Jésus-Christ l'amour que Dieu nous porte. C'est ce qui nous rend justes. Deuxième effet du légalisme, le légalisme pour régir la vie des autres. Ah, ça on sait faire. C'est une belle arme, le légalisme, pour réglementer la vie de ceux qui nous entourent. Et voilà cette fois-ci l'homme Dieu, celui qui pense, lui seul, décider de ce qui est bien et mauvais pour les autres. Regardez dans Colossiens ce que disait Paul. Vous êtes mort avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, il engueule aussi les Colossiens comme il engueule un peu les Galates, hein, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à ça ». Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage ? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains, dit Paul. Elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation, l'assujettissement du corps à une sévère discipline, mais en fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Le légalisme comme outil de pouvoir et de domination, c'est aussi une réalité, ça peut prendre des formes insidieuses, des normes explicites, mais aussi des normes implicites, y compris dans nos communautés. Et ça devient à la fin des choses, des fins à poursuivre en elles-mêmes. Et pour le dire en une phrase, Le légaliste, il sacralise la loi, il devient adorateur de la loi plutôt qu'adorateur de Dieu. Certains pharisiens, pas tous, on est un peu quelquefois sévère avec les pharisiens, mais certains pharisiens étaient devenus plus adorateurs de la loi que de Dieu lui-même. Alors, la visée du légalisme dont on vient de parler, c'est encadrer, assujettir, dominer, exercer un pouvoir, mais surtout faire la démonstration qu'on peut y arriver par soi-même. Et vous vous rappelez ce que disait Paul aux Galates ? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection ? La réponse est non. Alors il nous faut nous aussi voir quelles sont les pistes qui peuvent nous nourrir davantage. Et pour cela, je cite un passage qu'on retrouve dans Colossiens, un peu plus loin. Vous êtes aussi ressuscité avec Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Jésus lui-même va donner à voir la différence entre ces réalités qui appartiennent à la terre et les réalités d'en haut à travers ses premiers enseignements qui sont rassemblés dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6, 7. Et il y déclare, et c'est intéressant, qu'il n'est pas venu abolir la loi, pas venu jeter la loi et faire comme s'il n'avait jamais existé, mais il est venu l'accomplir. Et c'est toute la différence. Parce que quand vous regardez dans le Sermon sur la montagne, il passe en revue de façon systématique l'ensemble des éléments qui constituent le fond commun des croyances du peuple. Vous vous souvenez, notamment dans le chapitre 5, cet aller-retour permanent. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et quand vous relisez ce passage, où Jésus dit bien qu'il est venu accomplir la loi, il y a cette revisite de chaque élément clé qui donne un peu le vertige. Ça remet la loi en perspective. Ça en fait mesurer la portée dans tous les domaines. Non pas abolir, mais accomplir et comprendre le sens et arrêter de suivre des rites sans signification. À chaque fois, dans ce sermon sur la montagne, Jésus pousse le curseur un peu plus loin et un peu plus haut. À tel point d'ailleurs qu'à la fin, quand Jésus a fini de parler, Matthieu indique que les foules restent frappées par son enseignement et je cite « car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. » C'est-à-dire que tout d'un coup, la loi elle-même a pris une autre dimension, mais Jésus a poussé le curseur bien au-delà de la loi. Et les foules ont tout d'un coup en face d'elles l'original, pas la copie, qui est capable de communiquer la vie parce que c'est à travers lui que parle l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un qui leur répète simplement la loi. Voilà comment les réalités d'en haut deviennent petit à petit perceptibles à l'auditoire qui avait plutôt tendance à regarder les réalités connues, terrestres. Et voilà comment tout d'un coup tout s'ouvre. Alors pour nous ce matin, nous rappeler que si la loi, avec ses commandements écrits, comme le traduit le semeur, ça inflige la mort, ça conduit directement, logiquement à la mort, et que c'est bien l'Esprit qui communique la vie, c'est utile. On est appelé tous les jours, on vient de le lire ce passage, à rechercher les réalités d'en haut, comme l'écrit Paul, c'est-à-dire à désirer une vie nourrie et animée par l'Esprit de Dieu, habitée par l'Esprit de Dieu. Et on a déjà, pour ceux qui ont vécu la conversion, cette expérience que dès le moment où on est capable d'appeler Jésus Seigneur, l'Esprit Saint habite en nous. Ce qui me fait dire Seigneur dans mes prières, c'est l'Esprit Saint en moi. Et donc, ça, on le sait par expérience. Et c'est précisément l'Esprit Saint qui nous permet de reconnaître Jésus comme Seigneur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est Paul qui écrit ça aux Romains. C'est un acquis fondamental et une base solide. Mais notre Dieu a beaucoup d'autres choses à nous faire vivre par son Esprit, à la fois dans notre relation à lui et notre relation à notre prochain. Dans notre relation à Dieu, c'est l'Esprit qui nous permet de l'appeler Père et de nous attendre à lui comme un enfant s'attend à son Père, c'est-à-dire en pleine confiance. Et tous les jours, pas simplement le jour de la conversion. Et puis, dans notre relation à notre prochain, c'est l'Esprit qui nous rend capable de voir celui-ci ou celle-ci avec d'autres yeux que les nôtres, avec les yeux de Christ. Parce qu'on ne pourrait pas le faire tout seul. On est plutôt enclin à juger nos frères selon des réalités terrestres, des critères humains, notre culture qui nous environne, notre environnement qui nous influence. Mais ce qui nous permet de voir l'autre avec les yeux de Christ, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit qui donne la vie, dit Jésus ailleurs dans Jean 6, 63. La chair à elle seule, c'est-à-dire la nature humaine, ne sert à rien. Et il poursuivra d'ailleurs ce verset en disant « Mes paroles sont esprit et vie ». Vous voyez comme la boucle se boucle. Alors nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire que si Dieu ne communiquait pas avec nous par son esprit, il nous manquerait sa respiration, il nous manquerait son souffle. Alors pour finir, une anecdote. Quand je faisais partie d'un groupe de jeunes, on avait régulièrement des thèmes d'échange. Et parmi ces thèmes, on s'est interrogé beaucoup sur notre relation à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs un thème de groupe de jeunes assez riche et assez infini. Alors moi, je me souviens des discussions interminables qui portaient, vous vous en doutez, sur les dons de l'Esprit, sur les fruits de l'Esprit, qui sont des vastes sujets. Mais surtout, en tant que jeune, on était, dans cette discussion, empressés de savoir comment parvenir à ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, dit Paul, par exemple, aux Éphésiens. Soyez pleins de l'Esprit. Et un soir, à travers une discussion comme ça, ce que disait un membre du groupe de jeunes, qui d'ailleurs aujourd'hui est décédé, j'ai réalisé tout d'un coup que c'était certainement pas par mes propres efforts. Vous savez, le légalisme revient toujours par la fenêtre. Et comme me le dit Paul aux Galates, que je pourrais bénéficier de cette plénitude. Et le mot-clé qui a été employé par ce membre du groupe de jeunes, notre camarade ce soir-là, qui a été pour moi un déclic, c'était celui de disponibilité. Et l'Esprit de Dieu, finalement, quand on y réfléchit, ne nous remplit que si nous lui faisons de la place. Pas plus, pas moins. Et c'est à cette condition qu'il nous communique la vie. Et je voulais vous laisser sur ce mot-là. Nous pouvons être remplis de l'Esprit si nous sommes disponibles pour pouvoir l'être. Amen. Je vous invite à prendre un petit moment de résonance.